Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Professeur de chirurgie cardiovasculaire, Yves Glock n'hésite pas à sortir des murs de son hôpital à Toulouse pour aller enseigner et opérer ailleurs, en particulier en Tunisie, au Vietnam et en Palestine. L'écriture comme antidote à la tension d'un métier où la vie est au bout du scalpel. L'écriture comme partage de rencontres passionnantes d'hommes et de cultures. L'écriture comme témoignage d'une réalité souvent âpre, comme en Palestine, où nul ne voit un terme à cette lutte fratricide. Sans doute est-ce tout cela qui a incité Yves Glock à devenir écrivain. C'est dans un roman édité par les éditions Espiennens et intitulé « Mur, mur ». Titre évoquant bien sûr le mur séparant Israël de la Palestine, qui nous conduit dans cette contrée chargée d'histoire, de spiritualité et d'émotion. Nous accueillons Yves Glock qui a accepté de nous accorder un peu de son temps pour nous parler de ce quatrième roman. Voilà, Yves Glock, bonjour.
Bonjour.
Alors oui, chirurgien, chef d'un service dans un grand hôpital, professeur, de quoi remplir vos journées. Alors ce besoin d'écrire correspond-il en partie à ce que j'évoquais dans ma présentation ?
Peut-être un petit peu. Disons que j'ai toujours un petit peu écrit. Mais avant de passer vraiment à l'acte, il faut mûrir. Et puis, les expériences de la vie, et notamment nos missions à l'étranger, nous ont conduit à prendre conscience de nombreux phénomènes sociaux. Et c'est peut-être cela qui, à un moment donné, a nécessité un besoin de faire savoir, de laisser peut-être des traces, de témoigner un peu. Et puis cela doublé du plaisir aussi, d'écrire, de modeler un texte, d'essayer de le faire apprécier aux gens, voilà.
Alors quand et comment écrivez-vous ? À quel moment trouvez-vous le temps d'écrire ? Peut-être à l'étranger justement, non ?
Oui, exactement. Quand on est à l'étranger ou dans les avions pour des vols assez longs, on a le temps de. On est un peu à l'abri du téléphone et des impératifs. Mmh. Par conséquent, on a le temps de prendre un papier, de noter. Et puis je dois dire qu'après il y a les soirées, quand on n'est pas un adepte de la télévision, on a quand même des soirées devant soi, si on n'est pas d'astreinte ou de garde, et avec mon âge j'en prends un petit peu moins, il faut dire aussi, les plus jeunes qui travaillent. Par conséquent, ça me laisse un peu de temps pour écrire. L'écriture est un dérivatif et effectivement ça permet de sortir de milieu professionnel en étant tout à fait concentré sur ce que l'on fait. Et puis je dois dire qu'on écrit beaucoup dans sa tête. C'est-à-dire ma petite expérience, j'ai fait 4 livres, fait qu'en fait, l'essentiel mûrit dans la tête pendant un long moment. J'ai raconté des choses que j'avais vues il y a des années auparavant. Et à un moment donné, ça s'inscrit dans une succession de faits qui s'engrènent et qui arrivent à construire un roman ou une nouvelle.
Voilà. Alors, oui, vous dites que ce goût pour l'écriture, vous l'avez toujours eu.
Oui, disons plus que j'étais... Moins. Un scientifique moyen et plutôt un littéraire.
Ça veut dire, oui, un littéraire. Bon, en même temps, parce que en fait, des médecins écrivains, il y a eu Céline, il y a eu Cronin. Bon, oui. Quand on était jeune, on lisait Cronin. Et je
Tchekhov,
crois que
Bulgakov.
Voilà, oui, Schnitzer. Aussi. Et puis évidemment, maintenant, on connaît Jean-Christophe Ruffin. Mais enfin, des chirurgiens écrivains. J'ai vérifié, moi j'en ai rencontré aucun. Alors peut-être que je me trompe. Écrivain, c'est-à-dire pas des textes, pas des textes professionnels, disons.
Voilà, alors il y a Alain Deloche qui a écrit un livre sur l'éléphant blanc, qui a un peu son expérience humanitaire avec la chaîne de l'espoir. C'est un chirurgien cardiaque qui est un de mes collègues. Il y a Jean-Yves Neveu qui a écrit aussi sur la médecine, plutôt. Tu ne seras pas médecin, mon fils, alors qu'il n'a que des filles. Voilà, mais c'était surtout des livres plutôt portés sur la médecine.
D'accord. Et est-ce que vous voyez votre métier autrement maintenant que vous écrivez ?
Non, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt mon métier qui m'a aussi conduit à écrire plutôt que l'inverse. En ce sens que j'ai toujours appréhendé mon métier à travers les hommes. C'est pas parce qu'on est chirurgien et qu'on a des malades endormis au bloc qu'on n'a pas ces rapports humains.
Vous savez que c'était cette réputation qu'on faisait aux chirurgiens autrefois.
Je le sais, bon, c'est une mauvaise réputation. Je crois que la plupart de mes confrères sont comme moi, heureusement. Je crois qu'il faut savoir, après la journée de bloc, passer au chevet d'un malade, discuter avec lui. Et quand on a un peu creusé tout ça et ces rapports humains, on finit par se rendre compte qu'il nous apporte énormément à tout point de vue. Au point de vue culturel, au point de vue... de l'expérience de la vie. On a eu des gens plus âgés que nous aussi, donc ils ont connu des guerres, ils ont connu l'Indochine, ils ont connu les guerres d'Algérie, ils ont connu... Et tous ces gens-là nous apprennent des choses. On a appris aussi à parler avec des anciens mineurs de Carmo qui ont vécu au fond du trou. On a vécu... J'ai rencontré des ébénistes qui faisaient de magnifiques violons et violoncelles. C'est pour ça qu'à travers mes livres, il y a toujours plein de choses qui ressortent.
Exactement.
Parce que c'est un agglomérat de toutes petites choses et de rencontres qui, à un moment donné, passent sous la plume.
Mais ça veut dire aussi, et c'est ce que l'on ressent très fortement dans votre ouvrage, que vous avez une attention aux autres assez hors du commun malgré tout. Visiblement, il y a des notations, on se dit, tiens, mais il voit ça, il pense à cela. Bon, malgré tout, vous pensez que c'est un peu commun à peut-être à tous vos confrères. Je dirais que globalement, il y a quand même une écoute, une attention qui est particulière.
Alors, je crois déjà que par notre métier et la succession de gens que l'on rencontre, ce matin j'ai fait consultation, j'ai vu plus de 10 malades, chacun a un nom, un prénom, un visage, une date de naissance, un métier, et on finit par les ficher. On a un petit peu une certaine mémoire de cela. Au début, j'avais mon petit carnet quand j'étais interne, on notait tout ça. Maintenant, j'ai tout dans la poche, j'ai plus rien dans la poche, j'ai tout dans la tête. Et alors, des malades sont certaines fois étonnés parce qu'ils reviennent 2 ans, 3 ans après, je leur dis, c'est vous qui faisiez de la spéléologie, c'est vous qui... Ils vous en souvenez.
Oui.
Donc ça, il y a cette mémoire-là. Et puis après, il y a effectivement l'attention aux autres, parce que je crois que ça fait partie des richesses de notre métier. C'est un métier où on se frotte à toutes sortes de gens, de tous les milieux, dans toutes les conditions d'urgence, quelquefois dramatiques, que ce soit des accidents de voiture, que ce soit des suicides, que ce soit des agressions physiques. Et tout ça, ça nous conduit à réfléchir et ça s'emmagasine dans une certaine mémoire qui après peut resservir. Et ça, c'est comme ça que je pense qu'on écrit en grande partie et qu'on échafaude un sujet en prenant un événement clé autour duquel viennent s'agglomérer un certain nombre de sensations ou de souvenirs.
Vos différentes interventions à l'étranger se sont faites dans le cadre d'une action humanitaire, d'une association,
alors,
d'une organisation plutôt.
Disons que déjà, par le côté un peu universel de Rangueil, nous avons une mission pédagogique qui se manifeste.
Oui, parce que vous enseignez.
Voilà, oui. Le professeur, il enseigne, il fait de la recherche et il fait de la clinique. On a les trois missions. Sur la mission d'enseignement, qui est l'enseignement de la chirurgie cardiaque, nous formons des chirurgiens cardiaques français, c'est nos internes, mais nous formons aussi beaucoup de chirurgiens cardiaques étrangers. Et bien que maintenant ce soit un peu plus difficile par les formalités à faire, nous avons régulièrement des étrangers, que ce soit d'Amérique du Sud, de Moyen-Orient, du Maghreb ou de l'Asie. Au-delà de cela, on a créé des liens un peu forts avec certains pays. Je pense au Vietnam, auquel je suis très attaché, la Chine, je dois y partir dans 15 jours. Ce sont des liens que j'ai depuis 20 ans avec des chirurgiens que j'ai pu former, qui m'ont envoyé leurs élèves, et ce sont des liens qui n'ont pas été rompus. Alors, sur le plan humanitaire, bien sûr, on a toujours rendu service. Et chaque fois que je suis parti, c'est un peu parti de ma part, parce qu'il n'y a pas d'association humanitaire créée, vraiment. Mais grâce aux industriels de la santé qui nous ont soutenus, j'ai toujours pu mobiliser une équipe, parce qu'en chirurgie cardiaque, il faut une équipe. Il faut un perfusionniste qui fait marcher la circulation extracorporelle pendant que le cœur est arrêté. Il faut un instrumentiste spécialisé.
Il
faut un
anesthésiste,
donc, et un cardiologue. Et toute cette petite équipe, on a toujours trouvé les moyens d'y aller. D'y aller très modestement, dans des petits hôtels à 3 francs 6 sous, au bord du petit lac à Hanoï, par exemple. Et on y est allé avec toujours beaucoup de matériel, parce que les industriels nous ont aidés en nous filant des circuits de circulation extracorporelle jetables, etc. On a rapatrié aussi un certain nombre de matériaux qui n'avaient pas le marquage CE, mais qui fonctionnaient très très bien de Rangueil, qu'on a pu récupérer. Je pense à des seringues électriques, à des appareils d'électrocardiographie. Et toutes nos missions ont été encadrées par cet apport de matériel.
Alors, vous le dites bien, à un moment donné, vous allez aider et ô combien grandement hein, les populations, en l'occurrence au Vietnam ou en Tunisie ou encore à Ramallah en Palestine. Mais vous dites que ça vous a beaucoup apporté. Le fait de sortir de l'Hexagone, déjà, ça apporte beaucoup.
Oui, absolument. C'est-à-dire que quand on fait du voyage touristique, que ce soit en Chine ou au Vietnam, en 15 jours, on fait le tour du pays, on voit plein de choses. Mais quand vous restez 10 jours à Hanoï, à habiter dans un petit hôtel dans la rue où les gens jour et nuit tapent les plaques tombales, par exemple, ça vous empêche de dormir, vous levez le matin, prenez le petit déjeuner sur le trottoir, vous montez à l'hôpital, vous vous heurtez aux petits problèmes techniques parce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, on essaye de régler le problème. On opère des gens du delta du fleuve rouge qui sont des gens modestes.
Vous voyez le pays de l'intérieur.
Voilà, en fait, hein. Et ça, ça n'a pas de prix. Ouais. Ça n'a pas de prix parce que les gens sont souvent très reconnaissants. On en est même gêné quelquefois. Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils finalement ils nous apportent plus que ce que l'on peut donner.
Parce alors,
que
nous, c'est notre quotidien. On le ressent dans votre ouvrage. On le ressent finalement, tout cet apport que vous avez reçu. Et en revanche, on sait très bien que vous avez beaucoup apporté. Alors cet ouvrage, Murmure, il se situe donc en Palestine et en Israël. C'est un de vos plus récents séjours, peut-être ?
Ah non, le plus récent remonte au mois de février dernier. Je suis allé dans la bande de Gaza opérer. C'est encore autre chose.
C'est-à-dire
qu'on n'y rentre pas très facilement. D'ailleurs, ceux qui sont dedans sont quasiment prisonniers, ils peuvent pas en sortir.
Alors, figurez-vous que je me suis fait pour moi une photocopie du pays pour voir exactement où se situait la bande de Gaza, complètement isolée.
Alors, je vais vous dire, la bande de Gaza, elle est à quelques kilomètres de Tel Aviv. Elle est toute petite. Elle doit faire à peu près 45 kilomètres de long sur une dizaine, 15 kilomètres de large. Donc, c'est un très petit territoire avec une population dont la moitié a moins de 17 ans. Ce sont des enfants et des jeunes qui sont scolarisés d'ailleurs. Et nous, on y est rentré par la porte. Alors là, nous y sommes allés avec une association humanitaire, c'est ce que je raconte dans mon livre. Une association humanitaire que l'on a rencontrée par hasard. Et là aussi, c'est un de mes élèves d'Alep qui un jour m'avait, qui était parti depuis longtemps, qui m'a recontacté en me disant « Je sais que vous allez à droite à gauche, on aurait besoin d'un chirurgien à Ramallah ». C'est comme ça que je suis allé la première fois à Ramallah.
D'accord.
Et que, continuant à avoir des rapports avec cette association, ils nous ont proposé d'aller à Gaza, où nous avons fait une mission conjointe avec un de mes confrères, que je n'avais pas vu depuis 30 ans et qui est interne avec moi à Limoges, le professeur Oberlin.
Parce que d'ailleurs, on se rend compte que finalement, il y a un grand nombre de chirurgiens qui interviennent.
Bien sûr.
Oui.
Alors, le PCRF, pour en parler un petit peu, a été créé par un journaliste américain qui s'appelle Steve Sosby, et sa femme, Ouda, qui est morte d'une leucémie il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Et Steve Sosby a 45 ans. Il a monté ça parce qu'il a été témoin de la première intifada comme journaliste. Et il a vu ses enfants désemparés, mal soignés, mal nutris. C'était le pays de sa femme parce qu'il a rencontré sa femme en Palestine. Et ils ont décidé de faire cette association qui ramène de l'argent un petit peu par les dons, qui est apolitique et dont le seul but est de nourrir ses enfants, de les soigner et quelquefois les adultes. Moi, je fais de la chirurgie adulte, donc je n'ai pas fait des enfants. Mais la chirurgie des enfants du cœur se fait à l'hôpital Makassem de Jérusalem-Est. Et là, il y a d'énormes équipes qui se succèdent. Quand nous étions, il y avait une équipe belge qui était de professeur Catherine François de Gand, avec toute son équipe. Je sais que le professeur Dominique Métras de Marseille y est allé cette année, par exemple, avec son fils qui est interne chirurgical aussi. Ils sont allés tous les deux. Ce n'était pas sa première mission. Donc les Français s'impliquent et les équipes internationales. Parce qu'à Ramallah, nous étions la première équipe française. Avant nous, il y avait eu des Allemands, des Italiens et des Anglais.
Belges aussi.
Les Belges aussi.
C'était
étaient
des enfants,
aussi,
pour les enfants.
Pour les enfants.
Alors là, je constate votre grande générosité parce que vous êtes là pour parler d'un livre et vous parlez de cette association et de ce que vous faites, et c'est passionnant, et de ce que font vos collègues aussi beaucoup. Et je me dis, on ne parle plus de livres. Et voilà, et je trouve ça admirable aussi, vous voyez. Alors, pour l'heure, on va parler pour nos auditeurs de livres, mais je suis sûre que ce que vous avez dit auparavant les a fortement intéressés, et nous reprenons tout de suite après.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Nous retrouvons Yves Glock qui est venu nous parler de, en principe de son roman Murmure, intitulé Murmure, et aux éditions Espiennens. Alors, je dis en principe parce que Yves Glock est un passionné, on le sent en l'écoutant. Il nous a parlé de ce travail, finalement, qui n'est pas tellement dit dans les médias, je trouve, de ce travail que font beaucoup de médecins, de chirurgiens comme Yves Glock, comme vous, de ce travail qui s'effectue dans des pays qui ne sont pas quand même simples, qui sont parfois même dangereux, des pays où il y a de la souffrance, de toute façon, du malheur, et ça, il faut en parler aussi, hein. Et donc, merci à vous d'en avoir parlé dans la première partie de cette émission. Alors, à l'instant, quel mot vous viendrait à l'esprit quand on parle de Palestine et d'Israël ? Qu'est-ce que pour vous ?
Je pense que c'est un énorme gâchis parce que c'est un pays qui est merveilleux. C'est un pays qui a donné naissance aux trois religions du livre. On devrait avoir l'intelligence, si Dieu existe et s'il est le même pour tout le monde, de se mettre... Oui. autour de la table et oui. d'arriver à s'entendre.
C'est le mot gâchis que vous gardez,
voilà.
oui.
Alors après, mon livre est né d'une réflexion. Il se trouve que je suis allé à Prague en vacances. Et cette semaine à Prague, si vous connaissez Prague, c'est une ville musée.
Et dans laquelle, d'ailleurs, pour laquelle vous avez fait de très belles descriptions.
Bah, c'est un endroit que j'adore, j'y suis allé plusieurs fois. Et le quartier juif est impressionnant. Il a été conservé parce qu'Hitler avait dit « ça sera un musée ». Destiné à se souvenir d'une espèce en voie de disparition. C'est énorme. Et le cimetière juif, qui est tout petit, la taille d'un terrain de foot, est rempli de strates de gens qui ont été enterrés là. Et le hasard a fait que, visitant une synagogue, on est tombé sur les dessins des enfants de Térézine.
Oui, et ce passage est particulièrement émouvant.
Mais c'est un passage, on devait passer vite, on y a passé quasiment la demi-journée avec ma femme, on a regardé toutes ces photos, tous ces dessins...
Et ces témoignages
de
vie. On
ne peut pas rester indifférent. Et là aussi, quand je suis allé à Prague et que j'ai vu ces dessins, je ne pensais pas à Murmure, mais si vous voulez, tout ça, ça fait un agglomérat qui fait une histoire. Et j'ai fouillé un peu sur Térézine, j'ai trouvé que c'était un endroit dramatique où... on a conservé comme une vitrine un certain nombre d'intellectuels juifs.
Yves Glock, je vais vous arrêter deux secondes, une seconde. Térézina, c'est un camp de concentration. Alors, on parle pas tellement de ce camp.
Alors c'est un camp qui n'a pas été un camp d'extermination, c'est un cas de concentration, c'est-à-dire qu'on les a concentrés là. Les Allemands ont fait une simili-autogestion par les Juifs eux-mêmes, avec un comité juif qui dirigeait le camp. C'était une ancienne citadelle qui avait été construite à la frontière, je ne me souviens plus, entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie. C'était l'ancienne Theresienstadt. Et c'est dans ces locaux qu'ont été mis énormément de Juifs de Prague, de Danemark aussi, je crois.
Des artistes, voilà. Des intellectuels.
Alors, ne pouvant pas faire disparaître ces gens-là, qui étaient quand même connus internationalement, ils les avaient mis là. Et ces enfants de Térézine, dont beaucoup ont fini dans les camps de concentration, après, ont été élevés par cette élite intellectuelle qui les a amenés à se cultiver, à essayer de changer les idées. Et j'ai retrouvé la trace de Hans Krassa, qui est un musicien. Alors, en fouillant toujours, je suis tombé sur des enregistrements de cet opéra pour enfants qu'on entend, oui. qui est passé d'ailleurs à Jérusalem après. Oui. Donc, tout ça m'a donné l'idée. Tout ça m'a donné l'idée d'une histoire. Parce que d'un côté, on a ce juif qui a vécu ce qu'il a vécu, que j'ai fait passer à Térézine. Je n'ai rien inventé. Ma bibliographie repose sur des lectures, notamment de Joseph Bohr. Il s'appelle Les enfants de Térézine, et puis des témoignages que j'ai pu trouver sur Internet, etc. Et de l'autre côté, j'ai ces Palestiniens dont on sait que beaucoup ont fui la Palestine, beaucoup ont des diplômes de troisième cycle, c'est un des pays où il y a le plus de diplômes de troisième cycle par habitant, et qui revient dans son pays comme chauffeur de taxi.
Voilà, alors,
si vous voulez, le philosophe m'a aidé à discuter de la non-violence, parce que dans ce livre, dans toute la première partie du livre, il est pour la non-violence jusqu'au moment où un événement se passe qui fait que la non-violence a ses limites et que
vous voyez,
le subjectif reprenant le dessus. J'arrive à la fin du livre, et la fin du livre n'est pas une invention non plus, parce qu'en partant le matin...
On ne va pas parler de la fin du livre.
Non, mais en partant le matin à l'hôpital et en ouvrant France Info, j'ai entendu une histoire comme ça. D'accord. Et tout ça construit un roman.
Oui. Alors oui, donc vous mettez en parallèle deux vies d'hommes et d'hommes de bonne volonté, en fait, hein, l'un et l'autre.
Chacun a eu son destin.
Chacun a eu son destin. Alors je dirais que l'un est tourné vers le passé déjà, puisque tout au long de votre roman, il va évoquer son enfance, sa famille, tout ce qu'il a vécu, et c'est vrai qu'il est bon de le rappeler. Quant à l'autre, lui, c'est le Palestinien et qui vit dans un présent terrible.
Voilà, c'est un présent qui n'est pas facile pour eux. Les accès et les routes sont interdits dans certains endroits, il y a les checkpoints qui changent, on sait que dans certains villages, les puits sont détruits, on sait que... Enfin, tout ça, c'est su, c'est marqué, il suffit de revoir les rapports d'Amnesty International sur Internet. Ouais. Voilà. Le problème, c'était d'essayer de comprendre, parce que la légitimité des uns et des autres se défend, et c'est ça bien qui sûr. Est terrible.
C'est là où on ne voit pas de solution.
C'est là qu'on voit... La seule solution serait la non-violence et l'entente de la majorité, à mon avis, de ces gens qui sont amenés à vivre ensemble maintenant. Alors, peut-être que ça ne fait pas...
Oui. Alors, je voulais vous demander, parce que donc, il y a une alternance dans vos chapitres entre la Palestine et Jérusalem, entre Moshe et Mahmoud. Et puis, on parlera du personnage, je dirais, off, la voix off. Il y a une alternance avec des flashbacks. Comment vous avez construit votre livre ? Vous l'avez fait ?
Écoutez, moi j'ai une définition de hasard qu'on m'avait donnée en philo. On me disait c'est la rencontre fortuite de séries causales. C'est l'équation du Titanic et l'équation de l'iceberg. À un moment donné, ça se rencontre. Et là, vous avez une construction en triangle. Vous avez l'équation de Mahmoud, vous avez l'équation de... Et puis au milieu de tout ça, perpendiculaire si j'ose dire, vous avez ce groupe de personnes qui sont témoins de scènes, qui sont partis plein de bonne volonté et indifférents, et qui en reviennent. On ne peut pas rester indifférent. Non. C'est peut-être ça qui a donné le livre. Et je dois dire que très souvent, je suis un peu étonné du caractère unilatéral des choses qu'on nous sert dans les médias. Voilà. Et encore une fois, je ne prends pas parti, j'essaie de rester tout à fait neutre, parce que c'est très difficile de juger, mais il y a quand même des faits objectifs qu'on ne peut pas contourner.
Vous avez appelé vous avez donné un titre à votre roman, Mur, Mur, et c'est le mur, et il y a une charge symbolique énorme.
Ben c'est volontaire, d'abord la couverture, si vous avez vu la couverture, il y a une photo taguée. Alors le tag sur le mur, c'est déjà quelque chose, puisque c'est aussi un élément du moteur du livre. Ce tag est symbolique parce que CTRL-ALT-DEL, si vous faites ça sur un ordinateur, vous supprimez le fichier. Et je trouve que la personne qui a tagué ça sur le mur avait une vision de deuxième degré qui est extraordinaire.
Mmh, tout à fait.
Et puis les murs, bon, notre chauffeur de taxi qui a fait ses études à Berlin sait que le mur de Berlin est tombé.
Et il espère que le mur...
Et il espère que son mur va tomber aussi. Et puis, au-delà de tout ça, je crois qu'il y a un mur qui est infranchissable, c'est le mur de la foi. C'est-à-dire que quand la foi commence à devenir intransigeante et prosélyte, elle se heurte à l'incompréhension. Et ça, c'est encore pire que le béton. Ça, c'est terrible.
Tout à fait.
Et je crois que c'est un mélange de tout ça
mais
qui fait que...
On se demande si c'est pas une foi... c'est une manipulation, en
fait. Bien sûr.
Voilà.
Ben, la foi,
un
ça
prétexte.
Devient, vous savez, la foi, on peut l'avoir en Dieu, on peut l'avoir en un homme, il n'y a qu'à voir Mao, Lénine, Staline, Hitler, ça revient quand c'est extrême au fanatisme.
Alors, justement, votre personnage juif, Moshe, va visiter Prague, visiter la synagogue. Il y a de très belles images dans votre ouvrage de ces lieux de mémoire, parce que ce sont des lieux de mémoire.
Absolument.
Et Prague en hiver, vous nous donnez envie d'y aller.
Écoutez, j'y suis allé en automne et mon rêve c'était de voir Prague sous la neige. Et je ne vous cache pas que le dernier jour, il a neigé.
Il a neigé, voilà. Alors, en fait, et puis vous racontez bien, et c'est vrai qu'on imagine tout ce cheminement de cet enfant qui a grandi et qui s'est reconstruit en Palestine et qui met tout son espoir en son petit-fils.
C'est aussi l'avenir, parce que vous disiez, il regarde toujours en arrière, son petit-fils, c'est sa projection dans le futur.
Oui, c'est ça. Voilà, alors justement, vous avez parlé de Mahmoud et de ce philosophe, et c'est vrai ce que vous dites, cet homme qui est voué à... Bon, il est taxi, il l'accepte en toute humilité, mais enfin, il pourrait enseigner la philosophie, et là, il est barré, et on se dit, vraiment, on les empêche de vivre.
Oui, alors je ne sais pas si le service d'éducation culturelle palestinien ne lui a pas proposé un poste, je ne sais pas, il a fallu construire le livre, donc je l'ai mis comme ça. Je sais que dans beaucoup de pays, les gens qui reviennent très titrés n'ont pas forcément leur place, parce qu'elle est occupée par d'autres, et que quelquefois il faut passer par cela pour... Enfin, j'ai d'autres amis qui ont été chirurgiens formés à Toulouse, que ce soit, on a formé des gens de Sofia,
Des Bulgares.
On a formé des Argentins. Ils sont rentrés chez eux et ils n'ont pas eu la place qu'ils auraient pu avoir.
Oui.
Parce que des fois, il y a des monopoles. Des fois, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, bien sûr. Alors, on va reparler de Mahmoud, parce que Mahmoud est confronté à de multiples problèmes, et dont un primordial, c'est son fils. Alors, on en parlera. Pour l'heure, on fait une petite pause musicale et nous reprenons.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Murmure, c'est le titre de quatrième roman d'Yves Glock. Murmure, il s'agit du mur qui qui a été construit en Palestine et qui sépare deux communautés. C'est ce mur qui, on pourrait dire aussi le mur de la honte, c'est ce mur qui cristallise tous les antagonismes, toutes les haines. Maintenant, on en est là, hein, je pense. Yves Glock, je pense que c'est... on se dit, mais comment pourraient-ils revivre ensemble ? On se pose la question.
Écoutez, je pense que tout est possible. Regardez l'Allemagne et la France quand on regarde les films la guerre de 40.
C'est vrai. Mes deux grands-pères ont été tués par des Allemands.
Voilà, je veux dire.
Et, c'est vrai.
On est arrivé quand même à s'entendre, à faire l'Europe.
Oui.
Je crois qu'il faut... je crois qu'il faut compter sur l'homme.
Il faut espérer, voilà.
Faut espérer,
nous sommes dans l'espérance.
Voilà.
Alors, on parlait de Mahmoud, ce Palestinien qui est chauffeur de taxi, qui est un adepte de Thoreau, le philosophe.
Voilà, oui.
Donc, comme Gandhi, il prêche la non-violence. Et le drame de cet homme qui a un fils unique, c'est son fils, finalement.
Et, oui,
on comprend que entre les adultes et les jeunes, il y a un fossé là.
Ben, on l'a déjà un petit peu dans notre propre société, oui, avec nos enfants adolescents qui des fois se rebellent un petit peu. Là, on est dans une société où les parents savent ce qu'ont vécu leurs propres parents, notamment la chute le cloisonnement de la Palestine en 48, la guerre israélo-palestinienne. Ils ont un passif. Les enfants, eux, ils sont devant un état de fait qu'ils ne comprennent pas forcément, n'assimilent pas forcément tout ce passé, et sont bien entendu une proie très facile pour les idéologues qui essayent peut-être de les encadrer et de les récupérer. Et
ouais,
puis, il n'y a rien de plus facile que de souffler un petit peu sur la passion des adolescents, les idéaux, ouais, etc.
Ouais.
Et puis, je pense aussi que ces enfants, quand ils voient leurs parents vivre cela, vous savez, il y a une chose, je crois, dans la vie des gens, de n'importe quel homme sur la planète, c'est la perte de son amour-propre. Ça, c'est une cicatrice qui, je pense, ne cicatrise pas.
Mmh.
Et actuellement, quand on se promène là-bas, on se rend compte quand même que leur amour propre en prend un méchant,
oui,
coup.
Oui. Et donc, aux yeux de leur fils, ils sont traités de lâches par
voilà,
certains.
Voilà. Je repense à une nouvelle, je ne sais plus qui l'a écrite, où un jeune musulman s'est trouvé en face de son père et de la police, et on baisse le pantalon du père, et le fils voit le sexe de son père. C'est quelque chose qu'il n'a jamais pu accepter. C'est une nouvelle que j'ai dû lire il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter quand ce sont ses parents qui...
C'est l'humiliation.
C'est l'humiliation.
Finalement.
Voilà, c'est l'humiliation. C'est le mot que j'ai cherché.
Oui.
Et quand les gens sont humiliés, ça cicatrise difficilement.
Tout à fait. Tout à fait. À un moment donné, et nous ne raconterons pas la fin du livre, mais à un moment donné, il dit la vraie vie le gifle violemment. Il était dans le monde des idées utopistes et belles, et puis il faut y croire, comme vous avez dit, hein, il faut y croire.
Il essaie de les défendre d'ailleurs,
bien
quand
sûr.
Il va au bistrot avec ses copains, il essaye de leur faire comprendre qu'il y a peut-être d'autres moyens, que c'est difficile.
Oui. Alors, et il se pose l'éternelle question, qu'est-ce qui peut infléchir le destin de mon fils et de mon peuple ? Et c'est vrai que c'est la question primordiale, c'est celle que l'on peut se poser
actuellement.
Tout à fait.
Bien sûr.
Tout à fait. Alors, en fait, vous dites à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Et c'est vrai qu'on se pose la question, quand on referme votre ouvrage, on se dit, mais où ? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Où va-t-on aller? Et c'est là où ce roman a le mérite de montrer toutes les contradictions et toutes les misères de ces deux peuples, finalement.
Oui, oui. Moi, j'ai vu un côté... je pense que beaucoup de gens qui vivent en Israël, dans les villes israéliennes, etc., ne connaissent pas ce côté, de l'autre côté du mur. Cette vie du quotidien de l'autre côté du mur.
Il y en a qui en sont conscients et qui manifestent contre ce mur.
Et on commence, effectivement, on commence à le voir... Je pense au film Le Citronnier, qui était fait
remarquable.
Par un Israélien, qui est magnifique, et qui montre, qui pose le problème des murs et de ces citronniers là, le long de la frontière. La vie est difficile. Moi, j'avais un jeune qui me disait, j'habite à 15 km, il me faut plus d'une heure pour venir à cause des détours et des contours. Il avait demandé plusieurs fois son visa pour aller se former à l'étranger. On lui a toujours refusé, parce qu'ils sont tributaires des autorités israéliennes.
Voilà, ils sont constamment contrôlés.
Et le contrôle est permanent. Alors, ça peut s'expliquer aussi, bien sûr, parce qu'il y a le terrorisme. Mais l'un engendre l'autre. C'est assez terrible.
Oui. Alors, j'ai parlé de cette voix off, on pourrait dire une écriture off, c'est-à-dire c'est votre propre expérience, on le sent bien, de chirurgien dans une action humanitaire. Et il y a des phrases que j'ai relevées, et je me dis, parce que dans le fond, on fait tout pour sauver des hommes, quand ces mêmes hommes veulent s'entretuer. Ça,
je vais vous dire, on se lève le matin, on opère des malades. Sur le plan de la balance positif-négatif, on essaie d'en sortir un du bloc opératoire dans le même temps dans le monde. Une bombe explose et on tue 20. Je crois qu'on sera toujours perdant dans ce domaine. Mais bon, ce qu'on me disait le Christ, hein, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait.
Je n'ai pas tout fait pour
le Christ, mais j'ai fait pour les malades que j'avais entre les mains.
Alors vous dites aussi, arriver à ne pas se faire bouffer par ce bain permanent de la souffrance. Mais c'est vrai, quand vous êtes là, avec tous ces blessés, tous ces qui y arrivent...
Je dois dire que ça c'est le métier de médecin, quel qu'il soit.
Oui, quel qu'il soit, oui.
On est baigné en permanence dans la maladie, et c'est très particulier quand même. Il y a des gens qui sont derrière un guichet et qui voient des gens souriants, il y en a qui composent de la musique, il y en a qui écrivent des poèmes.
Il y en a qui font de la radio.
Il y en a qui font de la radio. Et puis, nous, on arrive le matin dans une institution où il n'y a que des gens qui souffrent, et on sort le soir, et puis des fois le téléphone sonne, et c'est encore des gens qui souffrent.
Oui.
C'est un métier particulier, c'est son côté merveilleux aussi, parce que je vous dis, on est vraiment dans le vif du sujet.
À un moment donné, vous écrivez « Quel sale boulot, mais il n'aurait pas pu en faire un autre ».
Je pense que c'est vrai. Quand j'en parle à mes collègues, ils sont tous pareils.
Oui, passionnés.
Je pense que, enfin pour la chirurgie cardiaque en tout cas, si on n'est pas passionné, on ne peut pas le faire.
Oui. Effectivement, il faut...
Parce que c'est très astreignant, prenant, puis c'est quand même une très grosse responsabilité de tous les jours.
Oui, et que l'on n'a pas dans d'autres spécialités.
Voilà, exactement.
Hein, de toute façon.
On arrête le cœur, il faut qu'il reparte. Hein. Oui. S'il ne repart pas, on a de gros soucis, et après c'est encore le chirurgien qui va voir la famille. Je veux dire, il faut l'assumer.
Oui.
Et le lendemain, on recommence.
Alors, donc, dans ce roman, Murmure... Vous terminez par cette phrase. Dans un premier temps, à vrai dire, on se dit finalement c'est très pessimiste. Mais comme vous dites, il faut espérer. Et vous dites la banalité d'un quotidien dont nous sommes tous complices. Donc c'est à nous aussi d'en parler. Et c'est ce que vous faites.
Mais moi, ce livre, c'est un roman, mais c'est en même temps un témoignage. Parce que tout ce que je raconte, je ne l'ai pas inventé.
On le sent, là, on sent que c'est du vécu.
Le groupe de jeunes Belges qui étaient venus opérer n'a opéré que 4 malades parce que les autres, on ne les a pas laissés sortir de Gaza, alors qu'ils devaient en opérer une quinzaine, je trouve ça énorme. Quand j'apprends que l'hôpital dans lequel j'ai été a été mis à sac par un groupe d'intervention au milieu de la nuit, ils avaient peut-être leur raison, mais ça reste un hôpital.
Oui, en représailles.
En représailles, ça m'a paru un peu énorme aussi, etc. Il y a des choses qui sont un peu irritantes.
Oui. Alors, c'est un témoignage, mais aussi c'est un travail de romancier.
Je ne sais pas.
Un travail, mais si. Et je vous dis encore avec des réflexions. Réflexion justement sur la condition humaine, sur l'humanitaire aussi, et donc je conseille à nos auditeurs de le lire. Je rappelle qu'il s'agit de Murmure, alors édition Espiennens. Alors pour avoir votre ouvrage, Yves Glock, on le trouve, peut le commander?
Alors, on peut le commander aux éditions Espiennens, c'est à Seillan, Seilhan, 31 510. C'est là qu'on a le siège de l'édition.
On doit trouver sur Internet.
Sur Internet, sur Amazon.
Oui.
Et puis à Toulouse, j'ai quelques librairies, dans la région aussi, Luchon.
D'accord.
Voilà. C'est une diffusion un peu restreinte parce que c'est une maison d'édition restreinte.
Une jeune maison d'édition,
exactement,
on va dire.
Exactement, on va essayer de la faire pousser.
Alors, donc, Murmure aux éditions Espiennens d'Yves Glock. Un grand merci.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli sur votre antenne.
Au revoir.